Europe Midi, Romain Desarbres.
Midi et demi pile, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Imaginez des policiers qui viennent d'interpeller un individu dans le cadre d'une opération anti-drogue et qui se font attaquer par des délinquants qui réussissent à libérer la personne interpellée. Ça s'est passé hier dans une cité des quartiers nord de Marseille. Le récit avec Stéphane Burgat sur place et la réaction d'un policier, Mathieu Vallet, dès le début d'Europe Midi. Dans Europe Midi également, toutes nos informations sur l'hommage national qui va être rendu jeudi aux Invalides à Jean-Paul Belmondo. On ira également dans l'un des restaurants préférés de Bébel. Et puis si vous habitez dans une maison ou un appartement où vous estimez subir trop de nuisances sonores, restez bien avec nous. On va en parler, on va parler d'une grande étude nationale. On verra notamment que tout ça coûte une fortune à la sécurité sociale.
Europe 1.
Trois jours seulement après la visite d'Emmanuel Macron à Marseille, notamment sur le thème de la sécurité, cette agression de policiers dans les quartiers nord sur fond de trafic de drogue. Des délinquants ont libéré de force un individu qui venait d'être interpellé. Avant d'appeler Mathieu Vallet, policier, les faits avec vous, Stéphane Burgat, en direct de Marseille. Bonjour Stéphane.
Bonjour Romain.
Racontez-nous, c'était à la cité Frévalon hier, hein?
Oui, ça s'est passé en milieu d'après-midi au cours d'une opération anti-drogue assez classique. Hein. La brigade spécialisée de terrain, la BST, interpelle un homme de 23 ans, soupçonné d'être à ce qu'ils appellent dans leur jargon un charbonneur, celui qui est en charge des transactions dans les points de vente. Il est alors menotté dans le dos. Une somme d'argent assez importante est retrouvée sur lui et c'est alors qu'ils sont assaillis par une dizaine de personnes, un groupe d'une dizaine de personnes. Et dans la confusion, eh bien, l'homme interpellé parvient à s'enfuir. Dans l'assaut, surtout un policier est blessé d'un coup de bâton à l'arrière du crâne, ce qui lui vaut plusieurs points de suture et une semaine d'incapacité de travail. Des renforts arrivent alors du commissariat nord, épaulés par des CRS. Dans un certain climat de tension, ils sont la cible de projectiles et ils procèdent ainsi à deux interpellations. Mais le principal suspect ainsi que le complice responsable des violences aggravées sont toujours en fuite et activement recherchés par les forces de l'ordre.
Stéphane Burgat, en direct de Marseille. Merci beaucoup Stéphane. Bonjour Mathieu Vallet.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Je voulais vous avoir en direct dans Europe Midi. Ce qui s'est passé est sidérant. Ça veut dire quoi? Que la police ne fait plus du tout peur à ces gens-là, en clair?
Ça veut dire que l'uniforme dans ces quartiers n'est plus respecté. Et puis vous avez eu raison de dire qu'une semaine après le déplacement électoral à Marseille, des élus, des autorités, on a effectivement des policiers qui usent, ils sont tous les jours, hein, leur nom de brigade spécialisée de terrain démontre qu'ils sont tous les jours dans ces quartiers. Et là où on a une différence, d'habitude, les interpellations sont compliquées, mais ça se passe pas comme ça. Et là, on a un policier qui a été sérieusement blessé, on est passé à côté d'un drame.
Quelle est la consigne dans ces cas-là? Le policier ne doit pas sortir son arme?
La consigne, c'est d'abord de protéger soi-même et ses collègues. Ensuite, lorsque les conditions de la légitime défense sont réunies, effectivement, ils peuvent utiliser leur armement intermédiaire. Ils ont des matraques, ils ont des gaz lacrymogènes, ils ont des grenades. Et après, l'arme, c'est vraiment en ultime recours lorsque toutes les conditions sont réunies. Mais vous avez raison, comme aujourd'hui, on pointe facilement l'action des policiers, on a des collègues qui sont de plus en plus inhibés dans l'usage de la force.
10 personnes s'en sont pris à vos collègues, hein. C'est pas quelques-uns. Ce sont 10 personnes. Vous, j'imagine qu'une enquête a été lancée. Que risquent les personnes qui ont fait ça?
Elles risquent au minimum plus de 7 ans d'emprisonnement et on espère qu'on retrouvera rapidement tous les auteurs pour qu'ils aient des comptes à rendre à la justice et qu'ils seront sévèrement sanctionnés, parce que si on les retrouve le lendemain dehors ou plusieurs jours après, c'est ce sentiment d'impunité grandissant qui arme ces voyous et qui met nos collègues en difficulté.
Et qui met vos collègues en difficulté. Oui. J'imagine que ça fait grand bruit dans la police, cette histoire.
Oui, enfin, tous les jours, nos collègues sont sur le terrain, ils sont pris à partie, ils sont attaqués, ils tombent dans des guet-apens, et malgré cette difficulté du métier, malgré cette dangerosité, ils restent motivés, mobilisés, et ils sont toujours aussi fiers de porter l'uniforme pour sauver les plus faibles et pour protéger la veuve et l'orphelin.
Merci beaucoup Mathieu Vallet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci d'avoir réagi et merci de nous avoir apporté également votre expertise sur ce qui s'est passé. Je suis sûr que vous êtes comme nous sidérés par cette histoire qui s'est déroulée donc dans cette cité des quartiers nord de Marseille. 12h35, on va parler de Jean-Paul Belmondo.
Europe Midi, midi 30, 13h, Romain Desarbres.
cette réaction de Brigitte Bardot qui a transmis un communiqué à l'AFP par le biais de sa fondation. L'interprète de « Et Dieu créa la femme » a rendu hommage aujourd'hui à Belmondo, décédé donc hier. Elle dit qu'elle pense à lui, qu'elle est dans le chagrin. « J'ai un gros chagrin, comme sa chienne Chippy qui fut sa dernière et si fidèle compagne. » C'est ce qu'écrit Brigitte Bardot. « Je pense à lui, je l'aimais, il me manque et je n'ai plus envie d'en parler. Les grandes douleurs sont muettes. » Voilà ce que dit Brigitte Bardot. Donc, ce qu'écrit plus précisément Brigitte Bardot. Ça sera jeudi aux Invalides. Hommage national à Jean-Paul Belmondo. Ça sera forcément un moment chargé d'émotions. On pleure la perte d'un grand acteur. Et aussi, il faut le dire, la fin d'une époque. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Bonjour Jacques.
Bonjour.
C'est Brigitte Macron qui est à la manœuvre.
Oui, la première dame est proche de la famille Belmondo. Dès hier soir, c'est elle qui a été en contact avec les intimes du comédien pour convenir de cet hommage national. Brigitte Macron joue un rôle important de relais entre l'Élysée et les proches de Jean-Paul Belmondo. Alors la date a été fixée à jeudi, après-demain, mais l'horaire n'a pas encore été arrêté, nous indique l'Élysée. La cérémonie d'hommage national très codifiée, très formelle, ne peut se dérouler que soit au Panthéon, soit aux Invalides. C'est ce dernier lieu qui a été privilégié, comme pour Charles Aznavour il y a 3 ans. La famille Belmondo souhaitant quelque chose de simple, il n'a pas été question d'hommage populaire, comme pour Johnny Hallyday. En ce moment même, au palais, les conseillers d'Emmanuel Macron planchent sur l'organisation et le fil de cette cérémonie. Comme pour tout hommage national, le chef de l'État prononcera un éloge funèbre devant le cercueil du défunt orné d'un drapeau tricolore. En 2019, Emmanuel Macron avait décoré le comédien en le faisant grand officier de la Légion d'honneur.
Jacques Serret, merci beaucoup Jacques pour toutes ces informations. Alors qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'un hommage aux Invalides? Est-ce que c'est adapté, tiens, pour Jean-Paul Belmondo? Caroline Baudry vous a posé la question.
Le fait que ce soit aux Invalides, c'est une reconnaissance pour le cinéma français et pour la famille de Belmondo. C'était un acteur, mais ça dépasse l'homme. Il a marqué le cinéma français et l'histoire du cinéma français.
Je trouve ça normal par rapport à d'autres. C'est quelqu'un qui était quand même connu, enfin super.
Quand j'ai appris que la cérémonie aurait lieu aux Invalides, j'ai trouvé que c'était chouette, parce que certainement la famille de Belmondo serait extrêmement touchée. Mais j'ai trouvé que c'était un peu démesuré, j'ai trouvé que c'était un peu de la récupération politique. Les Invalides, pour moi, c'est un lieu d'hommage national, c'est assez étatique. Au départ, c'est un lieu pour les militaires. Donc je trouve que, pour le coup, Belmondo, qui était un saltimbanque, c'est assez éloigné de cet univers-là. Maintenant, tant mieux pour lui.
Voilà, Belmondo qui était un acteur avec un sacré physique, un sportif. Il aimait le foot, il aimait la boxe. C'était pas une mauviette, comme on dit. Il faisait ses cascades lui-même, notamment dans Peur sur la ville, quand il était sur une rame du métro parisien. Il racontait cette cascade, écoutée lors d'une interview en 1975.
Le métro allait se mettre en place. Moi, j'étais aplati sur le toit du métro, dans le tunnel. Vous voyez, alors, quand le métro démarre, et avec le métro maintenant moderne, il démarre à toute pompe, d'un coup, vous êtes à 50 ou 60 à l'heure dans un tunnel où il fait noir. Et donc, on a une sensation de vitesse encore beaucoup plus grande, et vous êtes accroché là-dessus, et le métro rentre dans la station. Et là, dans la fraction de seconde où il rentre dans la station, il fallait que je me lève, je cours sur le toit du métro et que je saute sur l'autre wagon. Et à peine j'étais sur l'autre wagon, il y arrivait la voûte de la station, il fallait que je plonge dessous, donc c'est une question de timing terrible. C'est que si vous vous levez trop tard, si vous vous dites pipi que vous vous leviez, là vous vous foutez tout par terre.
Voilà, il aimait ça, les cascades, il aimait l'adrénaline que ça procurait. Et puis c'est l'heure du déjeuner, il est 12h38, vous êtes peut-être à table. Je vous emmène dans un des restaurants préférés de Jean-Paul Belmondo, le Père Claude à Paris. Belmondo déjeunait, fut un temps, tous les jours avec son ami toujours, son frère Charles Gérard. La table, c'était vraiment important pour Belmondo. Reportage Europe 1 au Père Claude de Johanna Chabas.
Je mettais les serviettes, les verres, comme s'il allait arriver ce soir pour manger.
Une table argentée, une banquette beige, juste devant les cuisines. C'était la place de Jean-Paul Belmondo. Carlos était son serveur attitré et à chaque fois que Bébel entrait dans le restaurant, c'était un spectacle.
La marche pour entrer dans le restaurant du Père Claude, elle est un petit peu élevée. Et comme il avait un handicap d'une des jambes, et je voulais l'aider à monter la marche. À chaque fois, il me disait non, c'est pas ma dernière cascade encore. Je vais le faire, moi, tout seul. Et il faisait sa cascade. Voilà. Il me faisait, hop, voilà. Si la personne ne venait pas vers lui, lui faisait en sorte que la personne vienne vers lui. Un sourire, un signe de la main, c'était pas quelqu'un qui tournait la tête de l'autre côté quand on le regardait, jamais.
Le gérant, le Père Claude, se souvient que celui qu'il appelait toujours Monsieur Belmondo se sentait comme chez lui.
Il arrivait avec son chien, tous ses copains, et lui il adorait, c'était manger un petit bout d'un purée ou un poulet. Il arrivait à midi et demi, il repartait à 4 heures après. Là on est sur les genoux, là. On pensera toujours à lui. tous ces bons moments passés.
Ces derniers mois, Jean-Paul Belmondo ne se déplaçait plus jusqu'au restaurant, mais il demandait à son chauffeur d'y aller pour lui ramener ses plats préférés.
Voilà, il était comme ça, Jean-Paul Belmondo. Simple, sympa, 4 heures à table, Belmondo. L'hommage aura donc lieu jeudi prochain, après-demain. Et voici la musique qui pourrait être diffusée, évidemment. La musique du professionnel, signée Ennio Morricone. Voilà, hommage national, jeudi aux Invalides, pour Jean-Paul Belmondo avec le président de la République. 12h40, restez bien avec nous sur Europe 1, dans Europe Midi. Demain va s'ouvrir le procès des attentats du 13 novembre, témoignage exceptionnel dans un instant. Restez bien avec nous, à tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
12h43, demain va s'ouvrir un procès marathon, un procès comme la France n'en a jamais connu. Vont être jugés un auteur et les complices des attentats islamistes qui ont fait 130 morts dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015. Aujourd'hui, dans Europe Midi, je vous propose un témoignage exceptionnel recueilli par Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Le témoignage d'Arthur Desnouveau. Il est président de l'association Life for Paris. Il est survivant de l'attaque du Bataclan. Il nous raconte son histoire.
Mon histoire, c'est celle d'un passionné de musique qui va à un concert dans une salle où il va régulièrement voir un groupe qu'il a déjà vu plusieurs fois, dont déjà dans cette salle quelques années auparavant, qui a 4 concerts d'affilée prévus au Bataclan, une fois Eagles of Death Metal et 3 fois Deftones, les 3 soirs suivants, avec une météo clémente et qui se dit que c'est un week-end de novembre assez sympa. Qui se retrouve dans la fosse, plutôt à l'arrière de la fosse, pour écouter le concert, pas trop loin de la console de son avec un bon son, et qui, en quelques minutes, voit sa vie basculer. J'ai réussi à m'enfuir en rampant par-dessus des corps de gens qui faisaient soit semblant d'être morts, soit qu'ils l'étaient. Par la sortie de secours à gauche de la scène, j'ai dû ramper et me cacher pendant 10-15 minutes à peu près de ce que j'ai pu reconstituer avec les autres personnes que j'ai croisées qui avaient une meilleure idée de la temporalité. Et en fait, ce qui est complètement fou, c'est que ces 10-15 minutes que j'ai essayé de traiter dans les jours suivants comme j'ai juste été témoin d'un truc et j'en ai pas été victime, ça a eu un impact profond, et je parle pas de devenir président d'association, sur ma manière d'aborder la vie. Ça a demandé plus d'1 an de psychothérapie, de la prise d'anxiolytique, enfin tout ce genre de choses. Donc ça a été un basculement hyper bref qui montre la violence du terrorisme. Et ça a été pour moi, qui était un amateur de concerts et de musique aussi, un peu comme si on avait percé la bulle dans laquelle je pouvais aller m'isoler quand j'avais envie d'avoir des loisirs un peu différents du reste des gens. Et donc ça a été une irruption soudaine dans ma vie de la violence et de la réalité politique à laquelle on ne peut pas vraiment échapper quand on vit en France actuellement. Après, il y a un engagement associatif qui est venu par là-dessus, qui fait que j'ai pu un peu réfléchir à la chose, comparer avec beaucoup de monde, beaucoup en parler, et qui m'a permis d'accepter ça comme une expérience inacceptable, mais profondément humaine, finalement. Celle d'un choc et d'un traumatisme dont on peut se remettre qu'en essayant d'avoir une résilience collective. Alors, je sais que le mot résilience est un peu galvaudé, mais je pense que dans le cas du terrorisme, il a encore du sens. Et en fait, faire tout ça, ça a évidemment beaucoup diminué ma culpabilité du survivant, celle qu'on ressent tous. Je me suis dit qu'au moins, j'essayais de faire quelque chose d'utile, et pas pour moi, mais plus pour les autres. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'évidemment, ce qu'on oublie un peu facilement, c'est que quand on ressort sans blessure physique du Bataclan, on se dit toujours, j'aurais peut-être pu sauver 2 personnes juste en me prenant une balle dans le bras. Et en fait, c'est ce que j'aurais dû faire. Et on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, en faisant ça, finalement, j'essaye de cicatriser cette impossibilité de revenir en arrière. Nous, je pense que ce qu'on recherche surtout, c'est à faire coïncider notre petite histoire avec un petit H, avec la grande histoire, avec un grand H donc, et avec l'histoire que se racontent monsieur et madame tout le monde à propos de ces attentats. Et en fait, il y a une question dans ce procès qui est très importante pour nous de resynchronisation, de dire voilà ce qu'on a vécu, voilà ce que la justice dit ce qu'on a vécu, voilà ce que tous les Français qui s'y sont intéressés peuvent entendre qu'on a vécu. Et à la fin, normalement, on espère que ça va tout réaligner.
Voilà, ce procès qui s'ouvre demain, il va durer jusqu'en mai prochain. Il y aura 195 audiences au total. On va évidemment en parler tout au long de ces mois qui viennent. 12h47, restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. On va parler du bruit. Le bruit, ça peut rendre fou. Il y a un rapport du Conseil national du bruit. Vous allez voir ça. Restez bien sur Europe 1. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h50, quand vous avez un voisin qui fait trop de bruit régulièrement, si vous habitez près d'un lieu très bruyant, ça empêche de dormir, il faut le dire, ça rend la vie impossible. L'ADEME et le Conseil national du bruit publient une grande enquête sur le bruit. On sera dans un instant avec la présidente du Conseil national du bruit. Mais tout de suite, avec vous, Océane Théard, j'aimerais que vous nous disiez ce qu'on découvre dans ce rapport.
Eh bien d'abord que 25 millions de personnes en France souffrent du bruit. Près d'un tiers d'entre elles habitent en Île-de-France. Alors les nuisances sonores, elles vont du bruit du métro, au cri des voisins du dessus, en passant par le vrombissement des motos. Et toute la journée, eh bien, cela pèse beaucoup sur la santé. Ces nuisances peuvent provoquer du stress, du diabète ou bien augmenter les risques d'obésité ou de maladies cardiovasculaires. Et tout cela a un coût. D'après l'ADEME et le Conseil national du bruit, 156 milliards d'euros. Cela comprend d'abord la prise en charge médicale des personnes qui souffrent du bruit, mais aussi la perte de valeur des appartements ou des maisons qui se trouvent en bord de route ou à côté des chemins de faire. Alors des mesures sont mises en place pour réduire cette pollution sonore. Des radars anti-bruit vont par exemple être testés dans 8 villes, dont Paris, Nantes et Nice. Le but, c'est de verbaliser les deux roues trop bruyants pour soulager les oreilles des riverains.
Des radars anti-bruit, merci beaucoup Océane. Bonjour Lauriane Rossi.
Bonjour.
Vous êtes députée La République En Marche, présidente du Conseil national du bruit. C'est un phénomène qui évolue dans quel sens ? Il y a de plus en plus de Français touchés ou pas ?
Oui, il y a non seulement de plus en plus de sources de pollution sonore, qu'elles soient issues des transports, des activités de voisinage, des activités industrielles, etc. Et puis, une exposition qui s'aggrave vis-à-vis de ces nuisances, vis-à-vis de ce bruit. Et nous avons beaucoup de personnes, des millions de personnes dans notre pays qui sont exposées à ce que l'on appelle le cumul de bruit, c'est-à-dire une exposition à une pollution sonore multiple.
Ah oui, c'est-à-dire qu'on habite le long d'une route très passante et il y a des avions qui passent au-dessus ou un chemin de fer. C'est ça, le multiple exposition ?
Oui, tout à fait. Vous pouvez habiter à côté d'une voie ferrée ou d'un grand axe routier ou d'une ligne de métro et puis subir aussi les nuisances de voisinage, qu'il s'agisse d'un voisin, qu'il s'agisse d'une activité industrielle ou événementielle, musicale, pas très loin de chez vous. Effectivement, la densification notamment des métropoles a, je crois, provoqué aussi cette augmentation du bruit. Et on l'a vu d'ailleurs pendant le confinement. On a rendu d'ailleurs une étude avec le Conseil national du bruit pour analyser la baisse sonore pendant la période de confinement. Et on voit bien que ça repart à la hausse, ça repart de plus belle. Et que beaucoup de nos concitoyens n'en peuvent plus.
Et comment on règle ça ? Comment est-ce qu'on on joue sur quel levier ? On met des doubles vitrages ? Qu'est-ce que vous pouvez proposer comme solution ?
Alors, que ce soit à l'Assemblée nationale en tant que députée et puis au sein du Conseil national du bruit que je préside, on a formulé beaucoup de propositions, tout d'abord pour réduire ce bruit à la source. De la manière la plus efficace et économique qui soit. Et cela éviterait de poser des murs anti-bruit qui coûtent parfois très très cher, qui ne sont pas esthétiques. Donc on travaille sur des revêtements routiers, sur la limitation de la vitesse, sur le changement des motorisations, sur la lutte contre le bruit des deux roues avec les radars sonores et je l'espère bientôt le contrôle technique des deux roues. Ça c'est pour les transports. Pour les logements, effectivement, vous avez raison, il faut je crois avancer sur la rénovation phonique des logements. On a beaucoup aidé la rénovation thermique, la rénovation énergétique. Maintenant, il faut qu'on s'attaque aussi à l'acoustique. Voilà quelques propositions.
Voilà quelques propositions. Ouais, j'imagine qu'il y en a énormément. Il y en a énormément et vous allez continuer à travailler. Mais on voulait évoquer ce problème dans Europe Midi. Merci beaucoup, Madame la députée, présidente du Conseil national du bruit. On va parler foot, on va faire du bruit ce soir pour les Bleus, pour les aider, pour être derrière eux. On est tous derrière les Bleus, même si on commence à s'impatienter, Cyril de la Morinerie. Hein. 5 matchs nuls de suite, sans victoire. Ce soir, les Bleus affrontent la Finlande à Lyon. Bonjour Cyril, en direct de Lyon. Faut qu'ils se réveillent, nos Bleus. Hein. On a l'impression qu'il y a un ressort qui est cassé.
Oui, les grains de sable s'accumulent. En 2018, on se rappelle que la force de l'équipe de France, c'était d'abord sa défense. Aujourd'hui, elle prend l'eau facilement. Les Français restent sur 5 matchs nuls. À chaque fois, ils ont encaissé au moins un but, ce qui est inédit depuis l'ère Domenech, soit depuis près de 11 ans. On se souvient en Russie aussi de contre-attaques éclairs, mais Kylian Mbappé est blessé et absent. Kinsley Coman souffre au mollet. Wissam Ben Yedder vient d'être appelé en renfort. Griezmann est moins influent. Quant aux nouveaux, eh bien, ils n'ont pas fait oublier, bien sûr, les glorieux anciens. Il manquera ce soir 7 titulaires de 2018. Didier Deschamps cherche une solution, mais pas tauge. En interne, forcément, l'ambiance est beaucoup moins sereine. Le capitaine Hugo Lloris commence à s'impatienter.
On attend une réaction. Dès le début du match, se servir également de l'énergie positive qu'il y aura dans les tribunes, parce qu'on est attendu par nos supporters. Il y a des périodes comme ça, un peu plus compliquées que d'autres, où on ne trouve pas les solutions, on ne trouve pas la réussite. Mais ce n'est pas le moment de lâcher. Au contraire, c'est le moment de se faire mal, c'est le moment de chercher à se surpasser. Quel que soit l'adversaire, le match, avant tout, c'est contre nous-mêmes.
Voilà, les Bleus doivent retrouver leur hargne ce soir, leur envie de se dépasser. Attention, car la Finlande avait battu les Français en novembre 2020. Charge notamment à Karim Benzema de briller dans le stade de son club formateur.
Voilà Cyril de la Morinerie, merci Cyril. 12h55, le temps tout de suite avec Anissa Haddadi. Un changement va s'opérer dans les prochaines heures, Anissa. Hein,
et ce changement, il arrive par l'ouest du pays. Alors cet après-midi, de la Bretagne au Pays Basque, on a quand même encore une journée agréable, mais vous allez voir que le voile nuageux devient de plus en plus important au fil des heures. Cette nuit, c'est dans le sud des Pays de la Loire et jusqu'en Charente-Maritime que les premiers orages éclatent. Ils pourront être forts localement, hein, soyez prudents. Partout ailleurs, nous avons un temps qui reste calme. Avant cette dégradation orageuse, l'après-midi est estival sur une grande partie du pays, de la Normandie à la Bourgogne, en passant par le nord, le bassin parisien et le centre. Il fait beau encore aujourd'hui. Il va surtout faire très chaud. Les températures sont encore une fois élevées. Certainement la journée la plus chaude de la semaine, avec 25 degrés à Cherbourg, 27 à Montpellier, 29 pour Besançon, 31 degrés à Paris, Lyon et Lorient, 33 à Rennes et Limoges, 35 pour Périgueux, 36 à Bordeaux et 37 à Mont-de-Marsan. Profitez de la chaleur, les températures vont nettement baisser après le passage des orages.
Voilà, on va en profiter de ces prochaines heures. Il va faire encore chaud avant l'arrivée des nuages. 12h57, très bel après-midi à vous. Dans un instant, c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Belle journée, on se retrouve demain pour Europe Midi.